soir vous propose du lundi au vendredi à partir de 16h, heure de Kinshasa, la chronique développement durable et environnement, les offres d'emploi, les nouvelles du site web de Radio Okapi. Retrouvez à partir de 17h sur la radio de la paix, les journaux en français, Swahili, Chiluba, Kikongo et Lingala. Synthèse de l'actualité africaine et internationale, économie, paroles d'enfants, rencontres avec les Congolais de l'étranger et les infos sport toutes les demi-heures. De 6h à 19h, bienvenue dans Okapi Soir.
Voilà, comment lutter contre la cybercriminalité? Il y a souvent des adresses électroniques qui font l'objet d'un piratage l'année de même pour les médias et réseaux sociaux qui ne sont pas épargnés par ces phénomènes. Certains internautes malveillants envoient des messages du genre « Vous avez gagné la loterie » et ceux qui se laissent faire sont automatiquement escroqués. Il y a également deux fois des photos obscènes qui sont postées sur la page Facebook sans les consentements des propriétaires de ces comptes. Alors comment lutter contre la cybercriminalité, comment être à l'abri de ces genres de pratiques. Nous en parlons avec notre invité Elga Kavira qui est informaticienne et nous rappelons le numéro de contact si vous êtes intéressé par ces sujets. Appelez au 081-890-6094 ou bien écrivez un SMS au 081-711-5001. Vous pouvez aussi poster votre réaction sur la page Facebook Okapi Service. Voilà, Madame Elga Kavira, vous êtes informaticienne. Non, on va parler de la cybercriminalité. Si vous voulez d'abord aider nos auditeurs à bien comprendre ces concepts, c'est quoi la cybercriminalité?
Merci beaucoup à Radio Okapi pour l'invitation. Oui. Bonjour à tous les auditeurs aussi. Au fait, le concept de cybercriminalité n'a pas une définition étymologiquement soumise à la loi, quoi. Oui. Ça dépend de chacun d'auteur et dans les concepts plus ou moins évolués dans les technologies, la cybercriminalité désigne plus ou moins un type de criminalité pénétrée à l'aide d'un ordinateur dans un espace qu'on peut appeler cybermonde ou cyberespace. C'est aussi un ensemble de délits que certaines personnes, comme vous l'avez dit dans l'introduction, s'amusent à envoyer à d'autres personnes, un ensemble de contrefaçons ou bien un ensemble d'accès non autorisés que certaines personnes ou certains logiciels malveillants sont installés sur des terminaux de certains internautes. En gros, la cybercriminalité peut être retenue comme étant une délinquance sur le réseau Internet, dont les conséquences, j'espère qu'on aura le temps d'en parler, révèle être particulièrement grave sur la sécurité humaine.
Et voilà, et si, avant de parler comment lutter contre cette pratique, qu'est-ce qui pousse souvent des gens à pirater les comptes d'autres? Qu'est-ce qui les pousse à faire ce genre de choses? Alors, il y a un intérêt par rapport à ça ou bien c'est juste, on vous dit par exemple vous avez gagné à la loterie ou bien vous avez votre compte Facebook, on vous envoie des images pas très bien, des images, par exemple, c'est quoi? C'est juste pour le plaisir ou bien on vise quelque chose derrière tout ça?
Non, c'est pas juste pour le plaisir, il y a deux types de cybercriminalité d'abord. Oui. Il y a une cybercriminalité de type 1 où les individus, les informaticiens, conçoivent des logiciels qui vont juste nuire à la personne, donc à la victime. Mais il y a aussi une deuxième catégorie de cybercriminalité où des individus maintenant n'attaquent pas seulement la victime, mais aussi
tout un système.
Voilà. Alors, quand l'individu ou le cybercriminel essaye d'attaquer une victime, ça peut être pour le plaisir, bien sûr, mais aussi pour tester ses connaissances informatiques. Il a conçu un logiciel pour soit attaquer un site web ou bien un réseau social et il s'est dit, je vais essayer de tester mon logiciel là sur cet espace-là. Il y a d'autres, ce sont des pirates à casquette noire qui se disent, non, je veux nuire. Donc ça dépend d'un sentiment à un autre, ça dépend d'un comportement à un autre. Mais dans la plupart de cas, ces genres de personnes qui conçoivent de ces logiciels-là ont derrière leurs ambitions une manière plus ou moins de nuire. Donc on va le dire peut-être plus tard que dans la cybercriminalité, on peut retrouver des individus qui visent soit un harcèlement sur Internet, soit une prédation contre les enfants. Donc ça dépend d'un individu à un autre. Mais dans la cybercriminalité, c'est un crime d'abord que certains pays développés ont déjà même publié des articles de loi poussant aux victimes de porter plainte. Donc, c'est déjà un crime au vrai sens du mot.
Ok. Voilà. Est-ce que maintenant, il y a moyen de lutter contre cette cybercriminalité? Il y a moyen d'être à l'abri de cela?
Alors, malheureusement, toute invention humaine porteuse de progrès peut être aussi génératrice de comportements illicites.
Oui.
Alors, il y a moyen de lutter. Un simple flash disque peut pousser à ce que tu perdes toutes tes données.
Oui.
Un simple flash disque, peu importe la capacité. La première manière de lutter, c'est d'abord de ne pas accepter n'importe quelle invitation quand je suis connecté sur Internet. Donc, c'est la première manière de contrôler son système de gestion de données, leurs transactions aussi. Mais aussi, dans les pays développés, le marché de la cyberdéfense occupe plus ou moins 8 à 10% du budget que l'État peut allouer.
Oui.
Donc, c'est toute une organisation de cyberdéfense où des individus, des experts, étudient la manière de protéger les internautes. Donc, la première manière de lutter contre la cybercriminalité, c'est une bonne information sur la cybercriminalité. La deuxième manière serait plus ou moins d'avoir de bonnes pratiques dans l'utilisation de cet outil-là, Internet. Ne pas entrer dans n'importe quel site, ne pas recevoir n'importe quelle invitation, sur Facebook par exemple, ou bien sur Twitter, etc. Ou bien avoir un filtre de ses mails. Donc, catégoriser les mails, ça c'est un spam, c'est un mail important, etc. La plupart de fois, quand vous recevez un mail, comme vous l'avez dit, vous avez gagné à la loterie, ou bien mon père est mort, j'ai une fortune, je voudrais vous léguer cela. Ces genres de messages contiennent la plupart de fois un virus,
oui,
un cheval de Troie peut-être, qui va permettre à cet individu de l'autre côté d'accéder à vos données. Donc, bien trier ces mails, être informé, c'est le premier remède, être informé permettra à l'utilisateur de l'Internet de ne pas tomber dans ces délits-là.
Ah, vous avez parlé de l'invitation, ne pas recevoir n'importe quelle invitation. Comment il faut s'y prendre? Alors, il faut que vous soyez sûr de la personne qui vous lance cette invitation, ou bien peut-être une tierce personne qui vous recommande la personne. Et comment on peut s'y prendre par rapport aux invitations?
Alors,
par
ça
exemple
dépend des attaques. Il y a certaines, oui, attaques qui nécessitent assez que vous installiez un logiciel vous permettant de bloquer ce genre d'invitation. Mais comme au Congo, il n'y a pas une cellule ou bien une équipe ou une entreprise chargée de lutter contre cette cybercriminalité. Alors, pour des utilisateurs simples, des gens qui ont une machine à la maison avec un modem, c'est d'abord de mettre à jour chaque fois son antivirus. Ça va permettre, par le firewall, donc le pare-feu, de bloquer certaines invitations, mais aussi de bien filtrer les mails. C'est très important. Il faudrait que les auditeurs aussi retiennent cela. C'est très important de savoir catégoriser ces mails. Et dans le titre de chaque mail, il y a des astuces pour les informaticiens. Il y a des astuces de savoir est-ce que ça, c'est un mail contenant un virus ou pas. Sur Yahoo, la plupart des fois, on vous dit, si vous ouvrez ceci, il y a un virus.
Oui.
Déjà, c'est un indicateur. Donc, il y a déjà des entreprises spécialisées qui vous donnent la possibilité de savoir que ces mails-là contiennent un virus. Vous pouvez directement les supprimer. Donc, moi, d'habitude, je n'ai pas l'habitude d'ouvrir de mails qui se trouvent déjà dans mon spam, puisque j'ai déjà mis un filtre qui me permet de savoir que ça, c'est un mail malveillant. Ça, c'est pas un mail malveillant. Et les gens qui sont dans la cybercriminalité ne sont pas de fous. Ce sont des personnes très intelligentes.
Oui.
Alors, ils se disent, je voudrais plus ou moins attaquer tel site. C'est arrivé avec le site de TV5. Donc,
ouais, voilà,
pour une grande entreprise.
Déjà
comme
à ce niveau-là, tout
voilà,
à fait.
Alors, la bonne manière, c'est d'avoir une équipe d'études minutieuses de chaque transaction de données. Donc, c'est très important.
Et voilà, on apprend également des gens qui sont surpris d'apprendre chez des amis, voilà, vous nous avez envoyé un tel mail, c'est plusieurs personnes, et puis on s'est dit, non, moi, j'ai jamais envoyé ces gens de mails. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas?
J'ai jamais publié tel post sur,
oui,
Facebook.
Oui.
Bon, de façon plus simple, je prends un exemple. Je suis dans un cabinet d'études où l'on me demande de protéger un site web. Par exemple, la CENI nous demande à ce que nous puissions protéger le site web contre toute attaque malveillante. Alors, nous allons écrire un programme informatique qui va permettre à ce que dans cette sécurité informatique-là, avec un critère, quand l'internaute va taper n'importe quel mot, on bloque directement.
Oui.
Les informaticiens dans des entreprises, si c'est une entreprise bien structurée, peuvent mettre de blocage sur le site que les agents vont ouvrir. C'est déjà une protection. Puisque je ne sais pas L'Internet, c'est comme un village où il n'y a pas de mur, c'est comme une maison où il n'y a pas de toiture, tout ça. Donc, c'est difficile de prévoir quand est-ce qu'il va pleuvoir ou bien il ne va pas pleuvoir. Donc, c'est vraiment très difficile. Mais la bonne protection, mais comment lutter vraiment efficacement contre la cybercriminalité, c'est d'avoir une équipe d'informaticiens, des experts dans cette matière-là. Et eux vont proposer tout un cahier de charge de la lutte contre la cybercriminalité.
Mais là, maintenant, dans ces cas, vous ne pouvez rien faire. Hein. Vous devez absolument changer des comptes ou quoi. Lorsque votre compte est piraté de cette façon, c'est-à-dire on reçoit deux mails que vous n'avez pas envoyés, il faut absolument changer des comptes ou
Non, pas absolument. Il faut d'abord, premièrement, comme j'ai vu certains des amis sur Facebook, ils publient un post pour démentir tout cela.
Ah, d'accord.
Oui. Mais deuxièmement, avec beaucoup de réseaux sociaux, les internautes ne sont pas protégés par les entreprises. Donc, Facebook ne nous donne pas une garantie que si tu es piraté, on va te dédommager. Donc, la plupart se disent, non, je change de compte. Automatiquement, je le supprime. Mais d'autres, s'ils sont vraiment très informés, ils se disent, non, je vais installer un logiciel qui va me permettre de bloquer ces genres d'invitations. Mais aussi, ça dépend du site que j'ai visité. Si j'ai visité des sites contenant ces chevals de Troie ou ces virus malveillants, automatiquement je serai aussi piraté. Donc il ne faut pas ouvrir n'importe quel site web. Tous les sites web ne sont pas plus ou moins fiables.
Donc vous avez insisté, madame, il faut contrôler hein, le système de gestion de données. C'est très important. Surtout, vous venez également de le dire, et il faut faire très attention, on n'est pas entré dans n'importe quel site. Oui. Voilà comment lutter contre la cybercriminalité. Nous en parlons avec Olga Kavira, qui est informaticienne. Donc, si vous venez de nous rejoindre sur la fréquence de la paix, voilà le sujet abordé encore par le magazine Okapi Service, votre émission de la vie au quotidien, si vous êtes intéressé par ce sujet, je veux le dire, et vous voulez intervenir, appelez au 081 893 94.
C'est parce que Radio Capéine et le Congo que vous êtes concerné par cette émission. Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Chaque jour de 11h à midi, heure de Kinshasa, le mercredi de 10h à 11h, vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. A vous aussi de proposer des solutions. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter le soir à 20h et sur internet, radiocapi.net.
Nous avons déjà un premier auditeur qui est en ligne, il nous appelle de Kinshasa, il s'agit de Chris Mutombo. Chris, bonjour.
Oui, bonjour Marcel, bonjour à notre invité.
On vous écoute, quelle est votre question ?
Oui, selon la thématique du jour, c'est normal de lutter contre la cybercriminalité. Mais l'essentiel, c'est quoi ? Aussi longtemps que dans notre pays, il n'y a pas un système qui est chargé pour la lutte contre la cybercriminalité. Est-ce que ça ira pour son éradication, donc pour limiter, n'est-ce pas, ces genres des types d'affaires pour lutter contre la cybercriminalité. Alors que sur terrain, nous sommes dans une mondialisation, dans une technologie qui évolue du jour au jour.
Oui.
Aussitôt que nos enfants ont des téléphones, ils sont téléchargés des options et des options. Alors, si et seulement si il n'y a pas un suivi pour nos enfants qui en possèdent, les montrer comment, n'est-ce pas, employer ces téléphones. C'est utile, par exemple, d'un téléphone d'appeler, d'accéder dans un site de quelqu'un que vous connaissiez très bien. Alors, s'il n'y a pas vraiment ces conditions, tout comme ces conseils que nous pourrions prodiguer à nos enfants, est-ce que l'éradication de cette cyber des criminalités sera. Donc c'est ça un peu ma préoccupation que j'ai voulu que notre invité puisse m'éclaircir.
Merci Chris Mutombo d'avoir appelé l'équipe Chassa à Isiro. On va retrouver Jean-Luc. Bonjour Jean-Luc.
Oui, bonjour Marcel.
On vous écoute Jean-Luc, quelle est votre question?
Ouais, bonjour à notre invité du jour. J'étais vraiment intéressé par son analyse. Elle a essayé d'expliquer ce qu'on entend par cybercriminalité. Quelque part, elle a parlé de cheval, du cheval de Troie. J'aimerais un peu savoir qu'elle nous explique un peu, parce qu'elle a expliqué avec des termes plus techniques. Concrètement, qu'est-ce qu'on entend par cheval de Troie dans un système informatique? Elle a parlé aussi de la sécurité. Maintenant, les conséquences, elle n'a pas brossé les conséquences de la cybercriminalité. Quelles sont les conséquences de la cybercriminalité? Merci, Marcel.
Merci, Jean-Luc, d'avoir appelé Dissero. Madame Olga Kavira, vous avez suivi d'abord Chris Mutombo qui a parlé déjà au niveau des parents. Il faut que les parents sachent conseiller aux enfants c'est bon d'avoir de Facebook, tout et tout, hein, mais il faut également que les parents puissent conseiller aux enfants. Il faut faire très attention par rapport à l'utilisation par rapport au contact que vous pouvez avoir sur votre site, mais il faut d'abord que les parents eux-mêmes aussi soient bien branchés pour savoir concernant les parents. Puis là, également demandé au niveau de l'État congolais, vous avez d'ailleurs évoqué, il faut qu'il ait également un système de contrôle. Qu'est-ce que vous dites à Chris?
Oui, je suis d'accord avec Chris quand il dit que quand il n'y a pas tout un système ou bien toute une structure de régulation de toutes ces attaques-là, il n'y aura pas d'avancée positive. Je suis d'accord avec lui, mais Tout chemin, ou bien le plus petit ou soit le plus long, commence toujours par un premier pas. Il y a des avancées significatives dans notre pays en ce qui concerne déjà les nouvelles technologies. Tout a un début. Certes, certains auteurs peuvent dire que la cybercriminalité est considérée comme le sida numérique ou informatique parce que il n'y a pas encore un remède fiable.
Oui.
C'est la même chose. Je lui dis, sans pour autant mâcher mes mots, que pas de structure efficace, pas de bonne lutte contre la cybercriminalité. Donc, il faudrait qu'on se rende compte de cela. Donc, nous ne pouvons pas être de grands informaticiens si nous n'apportons pas notre aide à la société aussi. Des mauvais informaticiens existent. Ceux qui sont là pour détruire la bonne vie de nos enfants, etc., ou bien ceux qui sont là pour nuire à la bonne éducation de nos enfants. Ils existent. Mais aussi, on doit avoir l'autre revers de la médaille, des informaticiens à casquette blanche, c'est-à-dire ceux qui sont censés protéger les victimes, ceux qui sont censés leur montrer ce qu'il faut faire. Donc, c'est ce qu'il faudrait faire. Mais, dans d'autres pays, comme je l'ai dit au début, la cyberdéfense occupe déjà 8 à 10% du budget. Donc, c'est ce que nos autorités aussi doivent comprendre, que investir dans l'informatique demande aussi beaucoup de moyens. Je ne peux pas dire que tout le monde doit être connecté sur Facebook ou bien sur Twitter ou bien avoir un smartphone et je ne protège pas cet individu-là. Il existe beaucoup d'arnaques derrière les réseaux sociaux. Donc, il serait plus important de mettre en place, c'est vrai, cette structure. J'ai appris qu'il existait déjà l'ordre des informaticiens qui essaient plus ou moins de cadrer avec ou bien de recadrer comment utiliser tous ces réseaux sociaux-là, mais il faudrait que cet ordre-là soit appuyé.
Voilà, en attendant de voir ces genres de structures, ces genres de missions où on essaie de donner des conseils à des personnes qui sont intéressées par l'Internet, comment savoir gérer son compte. Et vous avez également suivi Jean-Luc qui a demandé à ce que vous essayez d'expliquer un peu, vous avez évoqué le cheval de Troie et puis également des conséquences par rapport à la cybercriminalité.
Alors Jean-Luc, ici, il a demandé à ce que j'explique, c'est vrai le mot cheval de Troie, de manière plus simple. C'est un programme informatique, c'est un virus, programme informatique qui a pour but de détruire, de manière plus simple, parce qu'il m'a demandé de ne pas être trop technique, alors je tiens compte de la remarque,
oui.
C'est un virus, donc comme le virus va nuire à l'être humain, le virus informatique nuit au bon fonctionnement de la machine, peu importe ce que la machine contiendra, donc c'est juste un nom qu'on a donné à ces virus-là, à ces programmes. Alors, les conséquences de la cybercriminalité, je pense que c'est la deuxième partie de la question de Jean-Luc.
Oui.
Il y a une perte énorme en ce qui concerne les finances de l'État. Ça dépend de type, puisque je l'ai dit, il y a deux types de cybercriminalité. La cybercriminalité de type 2, où il y a une manipulation parfois même de marché boursier, ou soit il y a espionnage industriel. Déjà, imaginez qu'on pirate. Je ne le souhaite pas. On pirate toute une entreprise ou bien on pirate la banque centrale, imaginez. Combien de flux d'informations nous allons perdre? Donc déjà là, côté économie, nous pouvons perdre beaucoup de choses. Il y a des grandes conséquences en ce qui concerne la cybercriminalité. On peut dire non, on pirate le site de l'éducation quand on publie les résultats des examens d'État, par exemple.
Oui.
Si on pirate et qu'on falsifie ces cotes-là, ces notes des enfants, il y a des risques énormes.
Et pour ce genre de piratage, madame, la première réaction de défense, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter vraiment les chaos?
C'est d'installer des antivirus. Des antivirus, des antiprogrammes pour lutter contre cela. Tout est question de logiciel et d'algorithme. Si j'ai un médicament pour le sida, j'ai le remède. Donc, si j'ai la malaria, si j'ai mal à la tête, si j'ai le paracétamol, c'est la même chose. Donc, si je suis attaqué, je dois me protéger. Donc, quand un informaticien écrit un programme qui va nuire, un autre informaticien doit écrire un programme qui doit protéger. Donc, c'est la meilleure façon de lutter contre la cybercriminalité. Mais il faudrait éduquer ces informaticiens-là, les encadrer. Certaines personnes, tellement la programmation elle est fascinante et passionnante, ils se disent « Non, je vais écrire pour nuire ». Et quand ils nuisent, nous le voyons avec les piratages de comptes bancaires en Europe, etc. On vous dit « Non, telle banque a été piratée, tout l'argent est maintenant dans le compte d'un seul individu ». Ou soit, il y a des terroristes qui ont envoyé je ne sais pas quoi sur les comptes de Barack Obama, etc. Donc, tout cela, il faudrait qu'il y ait toute une structure, comme a dit notre ami Chris. Il faut toute une structure d'encadrement, toute une structure peut-être aussi d'écriture de ces programmes qui vont permettre à ce qu'on lutte contre la cybercriminalité. Et aujourd'hui, la cybercriminalité paye. Beaucoup se tapent de l'argent derrière tout cela, même si c'est un crime. C'est pour cela qu'il faudrait qu'il y ait des lois, des textes qui vont protéger les victimes de cette cybercriminalité-là.
Pourquoi c'est important lorsqu'on vous dit vous avez gagné la loterie et puis on vous demande votre numéro de compte et à tout ce qu'il faut comme information par rapport à votre boîte mail, à votre compte, il faut faire très attention parce que c'est possible aussi qu'on vous pique.
Oui, c'est juste de l'escroquerie sur le net. Donc, la cybercriminalité, en des termes simples, c'est de l'escroquerie virtuelle. Donc, on peut m'escroquer sur 24, comme on peut m'escroquer à la gare centrale, mais virtuellement aussi, je peux être escroqué en ligne. Donc, c'est la même chose.
Voilà, comment lutter contre la cybercriminalité. On poursuit donc avec Olga Calvira, informaticienne. Nous rappelons le numéro de contact si vous êtes intéressé par ces sujets. Appelez au 081 890 63 94.
Ouvrez l'agenda culturel tous les jours. Les concerts à ne pas rater, les nouveaux disques, peintures ou photos, les expositions à voir. Les artistes ont le rendez-vous sur Radio Okapi. La culture congolaise est bien vivante, nous la mettons en valeur. L'agenda culturel tous les jours à 6h20, 8h15 et 14h10.
Laissez-vous guider.
Jean-Luc, Jean-Claude, plutôt nous appelle de Dungu. Bonjour Jean-Claude.
Bonjour Radio Okapi, bonjour à madame l'invitée.
On vous écoute, Jean-Claude.
Merci infiniment pour le choix de ce sujet, parce que actuellement il y a des victimes et moi j'en suis une. C'est pas de la blague, c'est vraiment sérieux. On publie sur le compte Facebook des vidéos porno. Donc moi, par exemple, je n'ai jamais été auteur, je ne pouvais jamais avoir l'idée. Les amis qui connaissent mon degré de morale, ils se sont dit, non, mais c'est pas possible, explique-tout pas, Jean-Claude dit, etc. Alors, finalement, dès que le compte Facebook a été piraté jusqu'à ce niveau-là, pour que pareil poste sur votre compte ne se reprenne plus, il faut faire quoi, par exemple?
Voilà. Merci Jean-Claude d'avoir appelé de Dungu. Jacques Angalia, vous êtes à Bounia. Bonjour Jacques.
Bonjour la radio Okapi, bonjour Marcel et bonjour aussi à notre invité ainsi qu'à tous les auditeurs de la radio de la paix. Je voulais rectifier, ce n'est pas Jacques Angalia mais c'est Jacques Angwandia depuis Bounia.
Voilà, on vous écoute Jacques, allez-y, votre question.
Oui, la première chose que je voulais dire concernant ce sujet, c'est un témoignage. Et la deuxième chose sera peut-être une question que je vais adresser à notre invité du jour. Et si je m'en vais tout droit, sur Yahoo et Jour, j'avais eu un message, c'était une Sénégalaise, elle a dit qu'elle est au cas de réfugié. Par été à Libye et ainsi de suite de telles histoires et elle m'a vu une personne de bonne foi et ainsi de suite, mais chaque fois qu'elle m'envoyait des messages, je lisais mais je ne répondais pas jusqu'à ce qu'un jour elle va finir quand même de me dire est-ce que Tout c'est lamentation. Tout ce qu'elle dit ne me touche pas. Je vais dire que, en tout cas, franchement, demoiselle, je ne vais plus m'intéresser à ce genre de choses. Si vous pouvez contacter d'autres personnes. Et après 6 jours passés, elle a encore envoyé un message qui m'avait fait plus déranger. Elle va me dire, tout simplement, elle voulait me dire, s'il y a lieu que je la retire, je ne sais pas de réfugiés du Sénégal, que son père lui avait fait compte bancaire, et elle ne peut pas retirer ça, et elle m'a envoyé des liens de ses banques, la banque s'est trouvée à Londres, et ainsi de suite. Je me suis connecté même au site de la banque. Beaucoup d'autres histoires, mais quand les choses évoluaient positivement, je cherchais des preuves. Beaucoup d'autres choses qu'elles m'ont envoyées, même de carnets de dépôt, de l'argent à la banque, beaucoup. Mais à certains moments donnés, je me suis rendu compte que ce sont des réseaux bien organisés. Et puisque à la fin, il m'avait demandé, le directeur de banque me dit que non, il me fallait envoyer par Western Union une somme de 654 euros pour avoir des accès juridiques, donc pour que le problème soit connu. Comme je suis tombé amoureuse d'elle, elle m'a choisi comme son mari, alors elle peut me rejoindre là où je vais, ainsi de suite. Et comme j'étais étudiant de la deuxième licence en mathématiques ici à Lisbonne, j'ai pu analyser certaines choses, mais à fait des comptes, je me suis dit ça, ce n'est pas possible. Je n'ai pas cet argent. J'avais mon temps quand même qui pouvait couvrir 354 euros que j'allais pu les transférer. J'ai hésité plusieurs fois. Et finalement, je demandais au directeur de la banque, que nous allons signer avec lui un contrat, qu'il puisse faire tout avec l'argent qui est présent là-bas, et je vais lui rembourser sa type fois, c'est-à-dire par fois. Et c'est-à-dire, je vais lui donner 6500 euros si il réussit tout cet accrédit, il m'a motivé cet acte juridique. C'est là qu'ils étaient découragés de moi et je m'étais rendu compte que c'était une bande de voleurs, disons, de criminels tout simplement qui voulaient m'escroquer.
Alors, votre question maintenant, on a suivi votre histoire, votre question maintenant à madame, c'est quelle est votre question?
Oui, ma question, c'est sur Facebook, vous allez trouver, il y a des gens avec qui vous étiez des amis.
Oui.
Et ils sont aussi des amis avec les autres, peut-être, ou ils publient des choses ensemble, mais à un moment donné, vous retrouvez qu'ils ont publié parfois des choses immorales, mais vous n'étiez pas membre, mais vos auditeurs, vos amis, vous envoient des messages. Quel genre de messages que vous publiez, là, qu'est-ce qu'il y a ici de suite, beaucoup d'autres choses. Je voulais demander à l'invité comment ce genre de choses ont été évitées sur Facebook.
Voilà.
Et peut-être la dernière question, si vous me permettez.
Allez-y rapidement, oui.
Oui, je voulais demander comment on peut plus procéder concrètement, comme madame vient d'écrire, avec le chemin de poids qu'elle dit, pour arrêter ce genre de choses, de fichiers malveillants qu'ils envoient. Voilà toutes mes questions.
Merci Jacques. Depuis Bounia, Rigen Mozadi, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour Rigen.
Bonjour monsieur le journaliste et bonjour l'invité du jour. Je suis vraiment frappé de ce sujet que vous êtes en train de développer. Depuis un certain temps, je suis connecté à votre chaîne FM, je suis en train de suivre ici à la maison. Ma préoccupation c'est celle-ci. Comment on peut découvrir des fausses messages ou des messages qui nous parviennent dans notre boîte email de pirates, disons, dans le sens profond de l'informatique, ou bien comment tu pouvais déterminer Donc avant d'ouvrir le message, savoir si c'est un message, si c'est un mauvais message, la dame venait d'expliquer pourquoi. Parce que j'ai été aussi quelque part victime d'escroquerie chez un monsieur qui est, je ne sais pas si c'est un monsieur ou une dame, mais au Facebook son portrait c'est une fille qui est assise. En plus elle s'appelait Mila, je ne sais pas si c'est nécessaire de citer le nom. Elle m'a détourné 250 euros pour elle voulait juste me donner le passeport, le visa, des travailleurs, soit disant elle travaillait en France, et alors elle voulait juste me donner, me passer le passeport, le visa des réfugiés français, africains résidant en France, en quelque part. Alors quand une fois il m'a envoyé, c'est parmi mes correspondants, les correspondants de mon correspondant.
Oui.
Alors j'étais étonné de voir que elle était amie à mon amie correspondante au Facebook. Après un certain temps, elle commençait beaucoup plus à s'intéresser à moi qu'à mon ami là. Et puis après, elle me proposait, voilà, je suis en France pour le moment. J'ai dit, visa et passeport ici, je voulais justement faire appeler quelques, non, 10 personnes de l'Afrique pour la France. Alors si tu es prêt, tu peux me faire 250 euros et après je pouvais t'envoyer tous les formulaires, c'est déjà cacheté et tout, tu m'envoies seulement ton identité et je pouvais juste enregistrer. Et ce qui était drôle, le jour où quand je lui ai demandé l'adresse ou par où je devais déposer de l'argent, elle m'a envoyé l'adresse du passeport. Voilà. Je commençais déjà à douter. J'ai dit, mais pour moi, tu es en France, entre temps, tu es au Côte d'Ivoire. Donc, ce n'est pas juste. Elle commençait déjà à se fâcher. Elle dit, non, il ne faut pas se fâcher. Alors, c'est comme ça que j'ai fait alors le virage. J'ai fait les transferts d'argent, elle dit, pas 50 euros qu'elle voulait. Et après, elle ne savait plus me donner. Elle m'envoyait quelques formulaires, là, des visas et passeports, qui étaient bien. J'ai signé par le ministre des Affaires étrangères de France, et le cachet, toutes ces histoires-là. D'ailleurs, moi, je ne sais pas ces histoires-là, mais quand même,
Désolé pour Rigaine, mais on a compris son histoire. Lui, contrairement à Jacques Angalia, lui, il a vraiment mordu. Il s'est passé plein de choses sur Internet. On va prendre les derniers auditeurs en ligne avant de retrouver notre invité. C'est Alphonse qui nous appelle de Ingopolo à Nitori. Alphonse, bonjour.
Bonjour Marcel, bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi. J'ai des questions, une autre question avait été déjà posée par les auditeurs.
Oui, allez-y.
C'était celle de savoir plutôt comment filtrer les messages, ou est-ce qu'il y a une procédure claire pour bien filtrer les messages. Et la deuxième question, comment peut-on reconnaître d'emblée que tel internaute est suspecte, par exemple sur les réseaux sociaux, pour ne plus accepter son invitation. Et la dernière question, Marcel, j'ai vu sur Facebook une maman qui pondait. Elle a des œufs vraiment bons. Est-ce que c'était vrai ou faux? Je ne sais pas, mais ce que j'ai vu, c'est que c'est une femme qui était en train de pondre. Alors, je voudrais savoir si ce n'est pas une cybercriminalité. Merci,
Marcel. Voilà, merci Alphonse Boudrilé d'avoir appelé de Dingo Colladitori. Madame Olga Kavira, donc vous allez essayer de répondre un peu rapidement à toutes ces préoccupations. Pour Alphonse Boudrilé, c'est plein de gens qui ont posé la même question, ce genre de questions, même sur notre page Facebook. On aura le temps de lire rapidement leur réaction avant que vous puissiez répondre à la question d'Alphonse Boudrilé. Alors, qu'est-ce que vous dites par exemple au cas des Jean-Claude, lui, heureusement pour lui, plutôt de Jacques, lui, heureusement pour lui, il n'a pas mordu, contrairement à Reagan qui lui a volé de l'argent. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on est en face d'une telle situation? De manière générale, toutes les personnes qui, à un moment, même en ce moment-ci, sont en face devant un tel message, qu'est-ce qu'il faut faire?
Alors, j'ai vu que toutes les questions tournaient sur les réseaux sociaux, Facebook, etc.
Oui.
Je vais le dire plus rapidement. Facebook a plus ou moins mis en place une programmation qui ne protège pas l'internaute, donc le Facebooker, si je peux l'appeler ainsi.
Oui.
C'est-à-dire, dans sa programmation, l'ami de mon ami, c'est mon ami. À un moment donné, je peux avoir 5 amis, et ces 5 autres amis ont aussi 5 amis, subitement, je serai l'ami de ces 5 autres-là. Il n'y a pas une garantie efficace que je ne tomberai jamais dans la liste de cet autre ami-là. Donc, c'est ça l'inconvénient de Facebook. Il n'y a pas un monde protégé. Je ne choisis pas mes amis. Mes amis me sont imposés. Donc, alors, c'est l'inconvénient un peu de ces réseaux sociaux-là. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, vous allez voir que même si je n'ai pas aimé la page de quelqu'un, on m'enverra chaque fois des messages pour me rappeler que l'autre a publié. Finalement, je risquerai par peut-être visualiser. Et quand j'ai visualisé, je ne sais pas que contient cette page-là en termes de virus. Donc, il y a même un ami de Bounia, Jacques, je pense, qui dit que c'est quoi maintenant, comment éviter les fichiers malveillants.
Exactement.
Si je dois passer toutes les questions. Alors, pour éviter les fichiers malveillants, si vous n'êtes pas informaticien calé dans cette matière-là, vous ne saurez pas que ce fichier-là est malveillant. La plupart des spams, ils viennent certes avec des mots attirants. Vous avez gagné à la loterie, je suis riche, etc. Un voyage ou bien on organise, je ne sais pas.
Et puis, c'est cette fameuse histoire d'une dame qui a beaucoup d'argent, qui ne sait pas comment
voilà,
faire pour ça. Il y a plein de noms autour.
Comme je l'ai dit, la cybercriminalité, c'est de l'escroquerie virtuelle. C'est tout. Comme on peut vous escroquer dans un supermarché, comme on peut vous voler de l'argent, bien un porte-monnaie, c'est la même chose. Donc, il n'y a pas de différence. La seule différence est que je suis dans un monde numérique. Je n'ai pas vu la personne qui m'a escroqué. Ou bien, j'ai été en contact avec un programme sans pour autant tenir compte de cela. Mais aussi, un autre volet dans la réponse que je peux donner à Alphonse de Itouri, c'est quoi ? Vous pouvez ouvrir un site web. Finalement, sur le site web, il y a des publicités qui passent.
Oui, oui.
Et on vous dit, si vous cliquez ici, on va protéger votre machine. Alors qu'en cliquant sur ce lien-là, directement, vous installez un virus sur votre machine qui va prendre le contrôle de toutes vos données. Donc la manière, ou bien la plus grande défense dans la cybercriminalité, c'est une bonne sensibilisation de la masse publique. Donc, c'est très important que la population soit informée de cela. Et je félicite Radio Capi pour cela, pour cette occasion. Il faut que la population sache qu'il y a des escrocs aussi en ligne. Il faut que la population sache que je peux me faire escroquer, comme a dit le monsieur, qu'il a même envoyé de l'argent. C'est très grave, ça. Donc, à un moment donné, pour filtrer les messages...
Et après, il n'y avait plus contact. Donc, c'est que la personne a perçu son
argent,
il n'y avait
plus contact. Voilà. Et puis, les cybercriminels sont très, très organisés. Il faut faire très attention. Donc, ils peuvent mettre en place toute une structure, comme monsieur là de Lubumbashi l'a dit, il a même reçu un formulaire signé par le ministre, tout ça. Ils sont très organisés, puisqu'ils savent qu'ils auront aussi beaucoup d'argent. Alors, pour répondre à la question de monsieur de Bounia, comment éviter les fichiers malveillants, il faut activer sur votre machine votre pare-feu. Donc, c'est juste une option. Donc,
oui.
Dans le panneau de configuration, voir un informaticien, il va faire ça pour vous. Comme ça, ça va vous permettre de vous protéger, mais aussi installer un bon antivirus sur votre machine. Ça va vous permettre aussi, plus ou moins, de filtrer ces genres de cheval de Troie qui peuvent s'installer sans votre permission.
Vous avez suivi aussi ces témoins-là de Jean-Claude, hein, qui a retrouvé comme ça sa photo à... Et comme ça, publier,
oui,
il a cherché à savoir qu'est-ce qu'il faut faire lorsque...
Oui, mais on leur a donné l'autorisation de piquer nos photos sans notre permission, c'est ça,
alors qu'il n'en était rien, il en était aussi rien.
Oui, je publie une photo sur Facebook, je publie une photo, et puis subitement je retrouve cette photo sur le profil de quelqu'un que je ne connais même pas.
Mais une photo qu'il n'aimait pas de vous, il a dit qu'il s'est retrouvé comme ça, une photo nue, alors que lui, il n'a jamais pris une photo comme ça dans ce hôtel-là, il demande
des
quoi.
Des chantages.
Ouais,
à un moment donné, beaucoup d'internautes, qu'est-ce qu'ils font? Ils suppriment carrément le compte, ils ouvrent un autre compte, et ils se disent, je ne veux plus publier de photos. Pour éviter cela, il faut vraiment choisir ses correspondants. Ne choisir que des personnes que vous connaissez. Ne pas vous fier à des personnes que vous ne connaissez pas.
On va terminer avec cette réaction de Moïse qui nous écrit depuis Bounia. Je suis désolé par les actes qui font nos internautes. J'aime ceux qui publient de pornographie dans un groupe sportif sur Facebook. Ce n'est pas contrôlé. Que peut faire l'État congolais pour les contrôles sérieux de cela? Et comment protéger la jeunesse de ces fléaux? Vous avez conclu par là, madame.
Oui, alors, pour protéger la jeunesse de ces fléaux-là, je dirais que... La première des choses, il faudrait que les gens comprennent que la cybercriminalité s'est aujourd'hui qualifiée plus ou moins d'un véritable tsunami informatique. C'est-à-dire, en un moment donné, il faudrait que l'État congolais mette en place des dispositions légales qui vont permettre à ce que les victimes soient protégées. Mais aussi que la population sache que tout escroc peut utiliser n'importe quel moyen pour vous atteindre. Alors, il faut vraiment être bien informé. bien se protéger, ne pas utiliser n'importe quel site internet, ne pas accéder à n'importe quel site internet, ne pas aussi installer n'importe quel programme sur votre machine, mais aussi consulter des experts en la matière.
Et surtout, ne pas mordre lorsqu'on vous dit que vous avez gagné des millions.
Oui, ne pas s'affoler quand même.
Merci beaucoup, Madame Olga Kavira. Nous rappelons que vous êtes informaticienne. Avec vous, on a parlé de comment lutter contre la cybercriminalité. Merci d'avoir répondu à notre invitation.
Je vous en prie.